With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Salut, c'est Will of MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de Will of Cinéma. À We Love MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises. Et aujourd'hui, on va parler d'un ovni dans le paysage cinématographique français disponible sur les plateformes de streaming avec En passant pécho. Et pour cela, j'ai deux analystes complètement dématérialisés, à savoir Perrine Quenson.
Salut Daniel.
Et Max Besnard.
Salut Daniel.
Ça me fait très plaisir de vous avoir puisqu'on va parler ensemble de En passant pécho, une comédie qui est sortie il y a à peine une semaine et qui est disponible sur Netflix. Et Netflix, je ne sais pas comment ils gèrent leurs achats, mais ça se passe bien. C'est une affaire qui roule. Et quand j'ai sondé, parce que j'ai pas voulu savoir ce que vous pensez du film, j'ai juste demandé qui veut parler le premier. Et Perrine s'est débinée. Elle a dit non, pas moi. Donc Max, comment on peut définir En passant pécho? C'est l'histoire de deux dealers dans Paris et ils sont un peu dans la merde. C'est des petits arnaqueurs et puis ils ont des problèmes de famille et aussi de drogue. Enfin voilà, c'est de la petite arnaque. On peut le dire, c'est un stoner movie. Et voilà. Et comme ils le disent, c'est bien, c'est la Hesse. Alors Max, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Le mec, il est mort de rire déjà.
Tiens, regarde, là, dans ces 5 dernières secondes, j'ai plus rigolé que pendant tout le film. Sincèrement.
Pourtant, mon résumé est très, très fidèle. Et je tiens à rajouter, avant que tu t'embarques dans une analyse minutieuse de ce long métrage, c'est une adaptation d'une web-série qui existait déjà et dont j'ignorais complètement l'existence. Et je suis sûr qu'elle est super parce qu'il y a quand même au moins un ou deux comédiens que j'aime bien qui étaient dedans. Donc, on va reparler ensuite des deux comédiens, à savoir Eddie Bouchnefa et Maxime Leiss. Mais voilà, c'est une adaptation d'une web-série sur grand écran. Qu'est-ce qui pouvait mal se passer? Max, à toi.
Qu'est-ce qui pouvait mal se passer? Bah, comme dans toutes les adaptations de web-séries qui sont faites de base avec assez peu de moyens et qui tiennent sur des formats très très courts et assez hystériques, assez dynamiques, bah, c'est de faire un film qui est aussi hystérique et dynamique, mais sur une heure et demie au lieu d'un format de quelques minutes, et avec tout un cast qui fait ce qu'il peut pour essayer de tenir la barre jusqu'au bout, mais qui visiblement a oublié l'idée qu'un film, ça doit être rythmé un peu comme des montagnes russes. Il faut que ça monte, que ça redescende, que ça aille tout droit par moment.
Et là, il faut des actes.
Il faut des actes. Et là, c'est une hystérie intégrale pendant 1h39. Ça ne s'arrête jamais. Et malheureusement, je ne dis pas ça dans le bon sens de l'idée. C'est un film qui est brutal dans ses propos, qui est brutal dans ses dialogues, qui est brutal dans son rythme, dans son montage, dans tout ce qu'il amène du début à la fin. C'est un film qui est, je pense, tu l'as dit, hein, c'est un film stoner. Je pense que c'est le genre de film qu'il faut voir entre potes en ayant consommé des substances plus ou moins légales.
Ce que je ne fais absolument pas,
étant un straight edge, un infortuné straight edge. Et voilà, moi j'ai passé complètement à côté du début à la fin. J'ai pas rigolé une seule fois. Il y a une scène qui aurait pu éventuellement me faire rire et je suis certain que Perrine ou toi allez en parler, mais malheureusement un certain Yerim Sar m'a spoilé la dite scène juste avant. Et
donc si en plus Yerim te nique ton film, alors là il y a plus rien.
Donc, non, c'est complètement tombé à plat pour moi et c'était. Je peux même pas dire que c'était une déception parce que je connaissais pas la web-série. J'ai regardé après, hier soir, après avoir vu le film, j'ai regardé quelques épisodes quand même par curiosité et effectivement, je crois que c'est, je suis pas du tout, comme on dit poliment dans le milieu, je ne suis pas la cible.
Ouais, c'est ça.
Alors, Périne, tu vas plus y couper maintenant. Ça y est. Non. Tu peux plus. T'es face au vide et maintenant, il faut te jeter. Périne, qu'est-ce que tu as pensé de En passant pécho?
Je vais commencer là où Max est terminé. C'est-à-dire que oui, je ne suis pas la cible, clairement. Je ne suis pas le public pour En passant pécho. Moi non plus, je ne connaissais pas du tout la web-série. J'en avais pas particulièrement entendu parler. Encore une fois, parce que sûrement, je ne suis pas la cible de ça. Et alors, cerise sur le gâteau, moi, les films de Stoner, ça n'a jamais été mon kiff, hein, jusqu'à Las Vegas Parano, c'est pas mon truc, quoi. Et donc, là, c'est même pas un film de stoner à la beuh, hein, c'est un film de stoner à l'amphétamine, je pense, enfin, ou au PCP, enfin, je sais
MDMA,
pas, mais
un truc. Parce qu'ils sont quand même beaucoup de câlins.
Ouais, enfin, c'est assez intense, quoi. Non, clairement, moi, j'ai eu beaucoup de mal, je me suis sentie très, comme disait Max, je me suis sentie très agressée, pendant une grosse partie du film, en fait. Jusqu'à un moment donné, je sais pas comment dire, je pense qu'il y a mon cerveau qui a lâché et qui a fait stop et qui s'est dit, bah, je vais prendre ce qui vient, quoi. Et il y a une séquence en particulier. En fait, à un moment donné, le film devient méta, sort de son film, en fait, sort complètement de sa narration. Et je ne sais pas si on peut spoiler ou pas, mais enfin voilà, le film sort complètement, brise pas totalement le quatrième mur, mais sort complètement de ce qu'il était depuis le début. On en voit un peu le montage et les coulisses de manière encore une fois très exacerbée, mais c'est à partir de là où je me suis dit tiens, il y a peut-être quelque chose dans ce film qui m'intéresse.
Tu penses au délire du personnage de Fred Testo.
Ouais, ça, à un moment donné, Fred Testo voilà, sort complètement de son personnage et, voilà, et dit qu'en gros, qu'est-ce qu'il fout là-dedans.
Est-ce que tu penses que c'est écrit ou est-ce que ça se trouve, il l'improvise, je sais
non,
pas.
Non, c'est très écrit, notamment ne serait-ce qu'avec la réaction de ceux qui l'entourent. Mais à ce moment-là, je me suis dit, tiens, le film prend une autre dimension et m'amuse un petit peu plus. Et si je dois retenir une chose assez principale dans le film, moi, je dirais que c'est quand même... Nassim Liès, en fait, c'est l'un des deux créateurs du film, qui pour moi, en fait, autant je n'accroche pas du tout à cette narration, je sais même pas ce qu'ils veulent raconter, en fait, au bout d'un moment, et je suis même pas sûre qu'ils aient tellement un propos, plus que ça. Et je pense pas que tous les films doivent en avoir, mais bon, voilà, là, je sais pas du tout où est-ce qu'ils veulent en venir, et encore une fois, je suis pas dans le délire. Mais lui, et en tout cas, il a un truc de donner de son corps et de donner de sa personne qui m'impressionne assez. Visuellement, j'étais assez épatée parce que cet homme pouvait donner, quoi.
Et il a un don très Franck Dubosquien, comme on dit dans ce podcast. C'est-à-dire, tu sens qu'il n'y a pas de point retour, en fait, dans ce qu'il fait. Il se donne complètement à son ouvrage.
Il y a un truc, on peut parler de la limite entre le ridicule et le génie. Et en fait, il y a un moment donné... Alors, je ne sais pas si, encore une fois, c'est mon cerveau qui a lâché et qui a admis ou juste c'est lui, mais il y a un truc où il donne tellement, il est tellement dingue que j'ai été un peu impressionnée par ce jeu très physique qu'il a, que ce soit dans son visage ou dans son corps, qui m'a particulièrement impressionnée. Après, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas.
Il mériterait, moi je suis complètement d'accord avec toi, mais il mériterait vraiment que quelqu'un, alors que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, mais peu importe, hein, qu'on lui écrive un rôle à sa mesure, en fait, parce que malheureusement, il y a un problème d'écriture assez monstrueux dans ce film, ouais. C'est sans queue ni tête, et je sais même pas si ça cherche effectivement à avoir un propos à un moment ou à un autre, mais quand le film s'est terminé, je me suis dit, ah ok, d'accord, tout ça pour ça, en fait, mais qu'est-ce que j'en retiens? J'en retiens absolument rien, ça ne raconte rien, c'est juste des scènes d'hystérie qui s'enchaînent les unes après les autres.
Non, puis une espèce de violence, comme tu disais, verbale, ça ouais. C'est clair, mais physique qui est sans pitié. C'est un film qui n'a aucune limite et qui en fait met tout au même degré. Mmh. Comme tu disais, il n'y a pas de haut, de bas, il n'y a pas d'oscilloscope dans l'affaire. C'est-à-dire que vraiment tout est mis exactement au même niveau. Que ce soit des scènes de câlins, que des scènes, on va buter un mec au bazooka tranquillement. Enfin, il y a vraiment.
Et de faire des câlins à son cadavre.
Oui, en plus, enfin, voilà, mais ça encore d'une certaine façon, c'est là où en fait je trouve qu'encore une fois le rôle, en tout cas ce qu'incarne Nassim Liès dans le film, cette espèce d'excès de n'importe quoi, ça fonctionne un petit peu avec moi à la longue. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je me dis, mais jusqu'où va ce type, en fait? Jusqu'où il va?
Mais oui, mais permets-moi de t'interrompre, Perrine, je suis d'accord avec toi, mais à quel moment tu te dis, je suis face à une comédie qui fonctionne? Tu vois, c'est ça, en fait, mon...
Non, c'est là où je te dis, en termes de comédie, je comprends pas. Je vois juste en termes purement... de performance, en fait. C'est-à-dire que moi, vraiment, j'ai l'impression même presque d'être devant un truc d'art contemporain où je me suis dit, je comprends pas ce qu'on essaie de me dire, mais au moins, j'admire ce que je... Quelqu'un qui sort de lui, mais à un niveau qui me... C'est presque là où c'est presque pas juste pour son collègue. C'est-à-dire que lui a un rôle beaucoup presque plus terre-à-terre, alors que l'autre, il est tellement fou. Alors, à tellement de niveaux que c'est impressionnant.
Je vois que tu es sous le charme de Nassim Lies, qui donne énormément de lui-même. Moi, je suis très très fan, et depuis très longtemps, de Eddie Bouchnafa. C'est pour moi un des grands, troisième rôle des comédies françaises. Et je pense qu'il a énormément de potentiel, ce mec. Tout le monde pense au fait qu'il ait joué un petit rôle dans Un prophète, ce qui est pas mal sur le CV, vous admettez. Mais aussi, on le voit dans des petits rôles, genre, il était un personnage dans la série Marseille. Alors, tout le monde rigole de la série Marseille.
Oui.
Mais lui, il était extraordinaire. Ce qu'il faisait dans la série Marseille était super. Et malheureusement, pour illustrer un peu le fait qu'on utilise tellement mal un talent comme Eddie Bouchnafa, parce que je pense que on est de l'ordre du diamant brut qui est foutu dans du caca. Hein.
Mais les deux, enfin pour moi les deux, oui, c'est un truc.
Mais juste pour dire, parce que c'est vrai que l'autre est plus mis en valeur dans sa folie. Lui, il est plus terre à terre, il est dans la caricature de Scarface et tout ça. Eddie les bons tuyaux, comme on l'appelle, pour le montrer à quel point il est mal utilisé. C'est lui qui jouait l'Afghan. Dans Qu'est-ce qu'on a encore fait, bon Dieu. Ce qui se prend un shuriken par l'asiatique, si vous vous souvenez. Et un shuriken en image de synthèse. Très, très, très mal fait, je tiens à ajouter. Et voilà, c'est juste... Voilà, pourquoi ce mec-là se retrouve dans des projets aussi... là, peut-être que ça lui ressemble plus parce que c'est un peu stoner et il a l'air d'être plus branché par cet univers que par l'univers de Christian Clavier en mode vieille garde de droite. Mais je pense que vraiment on est de l'ordre d'un super comédien qui est en train de faire qui prend ce qu'on lui donne, quoi.
Je me souviens de lui dans Hors Norme ou dans Miss, dans des seconds rôles, et en fait quand il est maîtrisé, quand il est contrôlé, c'est-à-dire qu'on canalise quelque chose de son jeu, c'est quelqu'un qui est même très attachant, en fait, qui joue très bien.
Intensité. Bon, d'accord, mais là, en fait, on est en train de sortir des CV de chaque acteur ou actrice.
Alors, très bien. Testo,
mais on est censé parler d'un film. Je veux dire, Fred Testo, il est hyper mal utilisé dans le film. Il est beaucoup trop, il cabotine du début à la fin. Ça en vient épuisant. Il est jamais drôle, alors que c'est un gars, moi, qui me fait mourir de rire quand il est bien exploité. Il y a une de mes idoles en comédie française, à savoir Jonathan Lambert, qui a un caméo. Ah, ouais. Je plaçais tous mes espoirs quand je le vois apparaître à l'image. Je me dis, ça y est, je vais enfin pouvoir rigoler au moins une fois, et même pas. Ça s'écrase, la scène est d'une nullité
absolue.
C'est
le grand retour de Julien Courbet aussi.
Alors ça, oui. Ça m'a fait un choc. Julien Courbet, quoi.
Parce que c'est...
Il a vieilli.
C'est ton crush d'adolescente, j'imagine, mais le raid...
C'était le raid. Voilà. Pour moi, c'est le raid, Julien Courbet. Hein, donc,
Ciel, les oiseaux et ta mère, et tout c'est...
Imbattable.
On peut citer aussi...
Moi, c'était quand il crachait dans l'Iop, moi.
Oui.
On peut citer Bunaimin aussi, donc les Chinois marrants, qui a quand même un rôle assez prépondérant tout au long de l'aventure.
Il y a Julie Ferrier qui joue une espèce de rasta un peu cracra, je sais pas si je suis supposé rire à toutes ces scènes ou pas, en fait. Il y a plein de moments où je me dis, est-ce que je suis censé rire? En fait, j'ai l'impression que c'est une comédie très agitée, mais à l'image de, je sais pas si vous avez vu l'affiche, c'est deux mecs dans une voiture avec plein de lignes de force, genre c'est Speed Racer, quoi, ce qu'on va voir. Alors, c'est plutôt la buzz, quoi.
Moi, j'ai envie de vous poser une question, en fait. Qu'est-ce que vous retenez de ce film, en tant que pur moment de comédie? Est-ce qu'il y a des choses que vous retenez, en fin de compte? Parce que vous dites, tiens, il y a une scène qui m'a vraiment fait mourir de rire.
Moi, c'est Fred Testo, quatrième mur, quoi. Et je me suis dit, ah, là, il y a quelque chose d'intéressant. J'aurais voulu voir ce film plus tôt, en fait.
Oui, c'est ça. J'aurais voulu que ça arrive plus tôt. J'ai l'impression que le film prend conscience un peu trop tard. Et
parce que je pense que... Alors, on peut dire ce qu'on veut, mais je suis persuadé que eux-mêmes, et jusqu'au réalisateur, tout le monde est conscient d'être dans la série Z et dans le truc naze et d'essayer de faire rigoler avec un truc naze. Je peux pas imaginer qu'ils n'en sont pas conscients.
Mais en même temps, moi, je trouve que presque cette idée de tout mettre au même niveau, finalement, de vraiment, encore une fois, qu'il n'y ait zéro... inflexion dans le film, quoi. Cette idée de mettre tout au même niveau, presque c'est politique, en fait. Il y a quelque chose où, en fait, tous les personnages sont considérés littéralement au même niveau. Il n'y a pas quelqu'un qui vaut mieux qu'un autre. C'est assez intriguant de ce point de vue-là. Moi, il y a une scène qui m'a un peu plus plu, mais parce qu'en fait, je trouve qu'elle fait référence, elle a un côté très cinéphile, en fait. Elle fait autant référence à Kill Bill qu'à Roger Rabbit qu'à The Mask et c'est une scène de combat vers la fin qui je trouve complètement dingo, on est presque limite Dragon Ball Z, enfin je sais pas, mais il y a un truc vraiment taré qui se passe sur la fin qui est cartoonesque au possible et qui pour le coup je me suis dit tiens j'aime bien cette scène là mais j'aurais encore plus aimé cette scène là si en fait tout le film n'était pas à l'image de cette scène là tout est aussi énervé que ça. Donc, le fait qu'il n'y ait jamais de montée en puissance, qu'on part de zéro à 250 et qu'on reste à 250 tout le long, c'est... En fait, oui, tu parlais de problème d'écriture, mais c'est ça, c'est qu'il y a un problème, à un moment donné, d'écriture, de dosage et de structure, en fait, de comment structurer son film. Et c'est... Alors après, c'est peut-être volontaire et c'est peut-être un style d'écriture, encore une fois, auquel je ne suis pas adepte. Et my bad, en fait. Juste my bad. Mais c'est dur quand même.
est-ce qu'on a perdu Daniel Andreev?
Mais je crois.
Ah, merde, désolé, le micro était débranché. Mon micro était débranché.
Logique, normal.
Mais non, mais j'ai toussé en fait. Voilà. Et je vais re-enchaîner. Juste pour la montage, je précise, je re-enchaîne. Et puis tu disais un film politique. Il y a un détail et on ne peut pas ne pas en parler. C'est que c'est un film réalisé par un certain Julien Royal, qui n'est autre que le fils de Ségolène Royal.
Ah bon?
Ouais. Tu plaisantes?
Non, mais c'est le fils de Ségolène Royal.
Oh merde. Okay.
Ah putain, le silence de mort que vous m'avez fait. C'est le fils de Ségolène Royal et de François Hollande.
Comique de maman en fils, alors finalement la famille royale, c'est bien.
Et oui, mais non, mais
c'est une longue tradition finalement.
C'est quoi, honnêtement, moi je suis prêt à payer, pas pour voir le film, mais par contre pour avoir une séance de Ségolène qui regarde le film.
Ah, de ouf.
T'imagines? Genre, ah, qu'est-ce que c'est que cette histoire de. Qu'est-ce qu'histoire de pécho?
Bah, j'imagine derrière tout le dialogue, non, mais on se rend pas compte de ce qui se passe dans nos rues, avec les gens.
C'est sur la conscience et tout. Donc voilà, et quand je pense que Julien Royal est très précisément 10 ans de moins que notre actuel président, je vais arrêter là la boucle politique. C'est, j'ai une espèce de boucle narrative qui est en train de se terminer là autour de Julien. Julien Royal, pardon. Voilà, écoutez, on va pas tergiverser, c'est pas un film extraordinaire. Je pense que en fonction de ton état, en fonction de ce que tu peux donner au film, je pense que tu es plus ou moins à même d'avoir quelque chose. Moi, je crois que je suis vraiment pas le cœur de cible. Je suis pas le cœur de cible et les stoners, il faut qu'ils soient vraiment qu'ils soient bien et qu'ils soient maîtrisés et surtout qu'ils me donnent envie d'en voir plus et surtout que je sois pris d'empathie pour eux. C'est-à-dire, même si les personnages sont débiles, il faut que j'ai envie d'en voir plus, il faut que j'ai envie de les aimer et tout ça et j'ai pas ce sentiment, j'ai pas suffisamment d'affect pour la situation. Je trouve que je n'ose le dire mais la Beuse me paraît plus réussie que ça quoi.
Oh, c'est méchant.
Non mais la Beuse est pas complètement nulle. Non, je m'engage un peu trop.
Tu t'engages un peu trop.
Non, attendez, on est là dans un super buzz battle. Le meilleur stoner movie français.
Non, mais encore une fois, je trouve qu'il y a un truc, encore une fois, sur ce traitement de personnage où, en fait, personne s'en sort, littéralement. Je trouve ça assez presque intéressant, ce côté presque nihiliste de la chose, où il y a rien de positif pour personne, quoi. C'est à la fois je trouve ça marrant et en même temps je trouve ça presque inquiétant. Enfin, il y a quelque chose où je me dis tiens, en fait, il y a quand même une idée que rien ni personne n'est sauvable. Et eux, en fait, finalement, en étant deux grands rêveurs. Un grand rêveur, c'est une manière polie de dire qu'ils sont teubés. Quoi.
Je sais te décoder.
Voilà, mais en fait, à la fin du film, je sais pas comment dire, le film m'a eu à l'usure. Et au bout d'un moment, je me suis dit, oui, ok, très bien.
Ouais, il t'a eu à l'usure, mais on sait très bien que le comique d'usure dans ce podcast, c'est la bande à Fifi, quoi. C'est-à-dire, on fait 800 000 vannes et il y en a deux qui vont peut-être passer, quoi.
Alors, non, ça, toujours pas pour moi. Non, ça marche pas pour moi.
C'est pour ça qu'on t'a payé. C'est parce que tu sais résister, alors que moi, au bout de 48 vannes à la minute, au bout d'un moment, tu sais quoi, tu sais, c'est comme. Tu sais, je suis de l'Est, je sais comment ça me fonctionne la torture, je sais très bien. je sais très bien qu'au bout d'un moment,
craques et tu finis par dire allez, ok, je t'accorde un rire.
Voilà. comme c'est Netflix, on va pas dire combien on a mis dans la bourse.
Ah non, mais on peut quand même envisager de dire combien on aurait mis si ça avait été au cinéma.
Non.
Non.
Non, Max. Bon, moi je mets 3 euros, voilà. Non, 2 euros.
Waouh, tu plaisantes.
Je mets 2 euros.
Ah non.
Mais je pense qu'au cinéma, ça aurait été mieux. C'est exactement comme Soul de sur Disney Plus.
Non, mais il y a vraiment ce truc aussi. Imagine, tu vois ça au cinéma, t'es dans la salle, tu sais que tu peux pas sortir.
Ouais.
Bon, t'es chez toi, tu t'endors, tu reviens une demi-heure après, ouais, tu relances le film. Ouais, mais tu peux pas faire.
Le cinéma, c'est une expérience, hein.
Tu peux pas faire Wikipédia pour avoir tout le lore du film, par contre.
C'est vrai.
Et en plus, tu peux pas l'avoir en version anglaise ou sous-titré anglais « The Misadventures of Eddie and Cockman ».
J'ai envie de dire quand même, soyons quand même heureuses de ne pas avoir subi ce film au cinéma en portant un masque en plus.
Tu vois. Ah oui. Bon,
ça aurait été la double punition, quoi, pour moi.
Alors, je vous laisse par contre faire une reco. Et Max, tu m'as dit que tu avais une reco qui t'était venue en regardant ce film. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, j'ai une reco qui m'est venue. Justement, on parlait tout à l'heure de la scène du fourgon et celle où donc Fred Testo brise le quatrième mur. La scène qui suit, il dépose... donc, le fourgon s'arrête et il dépose deux des gars devant un bâtiment, là où il y a un coffre-fort, où ensuite le personnage joué par Bunaimin va venir chercher tout le pactole, etc. Bref. Et donc, ces deux personnages, il y en a un des deux qui est incarné par un gars qui s'appelle Shane Beria. Et j'étais trop content de le voir arriver. Ça m'a fait le même effet que Jonathan Lambert, en fait. C'est-à-dire que d'un seul coup, on te balance un gars. C'est comme au début, ça s'ouvre sur Benjamin Tranier. Tu dis, waouh, c'est quelqu'un que j'aime bien, dont j'aime bien le boulot. Je trouve qu'il est plutôt rigolo, etc. La scène va être cool. Et évidemment, la scène est complètement nulle. Et je voulais quand même en profiter pour saluer quand même le talent de Shane Beria, qui a donc commencé, si je comprends bien, sa carrière en 2012 dans la version web-série du film. Et donc, c'était déjà l'un des acteurs de ce truc-là. Et il a lancé, il y a à peu près un an et demi, une chaîne YouTube qui s'appelle En mode VHS. Et moi, je l'ai découvert vraiment par hasard en me baladant un soir sur YouTube. Et En mode VHS, je trouve ça démentiel. C'est à mourir de rire. Vraiment, c'est le genre d'humour que je surkiffe. En gros, il s'amuse à prendre tous les gros films d'action des années 80-90 et il te fait le résumé en une dizaine de minutes, scène par scène. Il t'explique exactement ce qui se passe dans chaque scène. C'est complètement hystérique en termes de rythme. C'est hyper drôle. Il a vraiment trouvé un personnage qui fonctionne, je trouve, très très bien. Et c'est pas fait avec des moyens complètement fous. Hein. Ça reste quand même très très, on va dire, presque amateur, semi-amateur. Mais l'écriture est mortelle et lui, il incarne le truc de façon absolument magistrale. Donc, allez sur YouTube, allez voir la chaîne En mode VHS, abonnez-vous et vraiment kiffez parce que c'est mortel.
Eh ben, écoute, je vais jeter un coup d'œil. Et toi, Perrine, est-ce que tu as une bonne solution pour une petite recommandation, quoi ?
Bah, je l'ai déjà un peu mentionné tout à l'heure avec cette scène de combat contre la police à la fin. C'est The Mask, en fait. Moi, j'ai pensé à The Mask en regardant le film, dans le côté Bon après l'art de l'excès et de la grimace et du grand n'importe quoi avec son corps et l'élasticité de l'acteur, c'est vraiment Jim Carrey. Sans dire que Nassim Nieff en est tout à fait à ce niveau-là, moi il y a ça m'a fait penser à ça, et donc je recommande The Mask évidemment parce que je pense à ce côté excessif, ce côté de mettre cette violence cartoonesque en scène, de d'aller dans l'excès du corps et l'excès de la grimace, que je trouve assez je trouve génial dans The Mask, et que le film m'a fait penser un petit peu à ça en fait.
Et pour ma part, je me suis dit je vais recommander un stoner movie, et en fait je suis pas un grand expert de stoner movie, pourtant il y en a des milliards, et un de mes stoner movie préférés pour moi, c'est Pineapple Express. Donc une production à Pato, écrite par Seth Rogen et Evan Goldberg. Évidemment, dès qu'il s'agit de bœufs, Seth Rogen, il est toujours dans le coin.
C'est l'homme de la situation.
C'est littéralement.
Je crois d'ailleurs qu'en termes d'imitation, tu tiens un très très bon Seth Rogen.
Je tiens un très bon Seth Rogen, mais d'abord, je vais faire ma reconnaissance. Comme ça. Alors, tu sais quoi, je fais Seth Rogen si toi, tu fais une vibe.
J'en ai déjà fait deux, excuse-moi.
Non, mais tu les as fait hors antenne. Maintenant, il faut te mouiller. Allez, peu importe. Seth Rogen, donc, qui écrit et incarne un personnage, donc, dans ce stoner movie aux côtés de James Franco. Et pour avoir vu ce film dans Feu, le UGC Orient Express, là où sortaient tous les films à Pato pendant une semaine. Vous savez, le UGC Orient Express, c'est dans le Forum des Halles, et c'est l'endroit qui est juste...
Mon endroit préféré.
C'est l'endroit juste avant que ça sorte la pisse. Mais par contre, il y avait tous les films de Kung Fu, tous les trucs qui sortaient là-bas. Tous les films que un peu décalés, c'était là-bas, et j'allais les voir là-bas. Et j'ai pleuré aux larmes dans ce film, parce qu'il y a vraiment des scènes débiles, dont notamment... James Franco qui passe son pied à travers une vitre d'une bagnole, et j'en pleure de rire rien qu'en y pensant. Donc voilà, je vous recommande Pineapple Express si vous voulez vraiment un stoner movie qui se tient. Hein. Je trouve que ça se tient. Et alright, you know I'm Seth Rogen, right? you know I smoke weed. I'm from Canada. En fait, c'est facile. Hein, faut juste penser à Fuzzy Bear. Hein, c'est mon personnage, et je pense à ce personnage et j'essaye de l'imiter. Voilà, je suis désolé. Maintenant, tu es engagé et tu dois faire une vibe, Max. Voilà, très bien. Est-ce que tu veux rajouter une vibe? Non, c'est bon pour toi, Perrine.
Oui, ça va aller, je ne suis pas... Moi, je ne sais pas faire tout ça. Je sais faire des voix, mais c'est tout.
Ah,
mais
wow. Je l'ai, Kermit.
Eh oui, c'est Kermit.
Splendide.
Eh, on peut faire, on peut faire tout le Muppet Show à nous trois. Bon, je vous remercie tous les deux. Je remercie aussi l'équipe de Wheel of MDR pour le montage et pour avoir fait le maximum pour que nos voix sonnent mélodieux. Surtout, faites un gros travail sur la voix de Max. À un moment, j'ai senti un petit... j'ai senti que ça partait en sucette.
En sucette.
Putain, il sait que j'aime bien. Il sait que ça me donne ça me fait monter les poils.
Les frissons.
Et ouais, pour nous retrouver, c'est Wheel of MDR sur Apple Podcast et toutes les applis dédiées. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires, d'en parler autour de vous. Et puis, si vous avez la télé, vous pouvez juger vous-même. Si vous avez Netflix, vous pouvez regarder En passant pécho, qui est disponible dès maintenant. Je remercie les plateformes de streaming qui se cassent un peu le cul pour qu'on ait un peu de matériel. Parce que ça, c'est quand même un beau film de la Saint-Valentin, quand même, qui est arrivé au bon moment. Bon, voilà. On vous embrasse très fort et on vous dit à très, très, très bientôt. Ciao.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.